sûr, ce serait facile d'ironiser sur la capacité d'un groupe à s'emparer d'une antenne, à diffuser une playlist ou à empêcher le fil normal des émissions. On pourrait ironiser là-dessus, mais enfin, ce serait se tromper de cible, puisqu'aucun acte de l'État islamique n'entraînant aucune perte en vie humaine n'a eu autant de répercussions que le piratage de la chaîne TV5 Monde. Hier, toute la journée, ce fut un festival de ministres, de chaînes, d'informations continuées de push ces alertes à l'information que l'on reçoit sur son téléphone portable. Ah, ces chaînes qu'on abat, comme disait Malraux, parlant probablement des arbres et pas d'un bouquet satellitaire, c'est bien simple. C'est lorsque TV5 n'aimait plus que tout le monde la regarde. TV5 Monde a suscité infiniment plus de commentaires que les massacres au Kenya, les réfugiés syriens ou les enfants yéménites. D'ailleurs, à propos de TV5 Monde, un conseil aux chrétiens d'Orient. S'ils veulent que l'on parle d'eux, ils n'ont qu'à se réincarner en chaîne de télévision. Fut un temps où les droits de l'homme étaient de ne pas être dans les chaînes. Maintenant, les droits des chaînes sont supérieurs aux droits de l'homme. En d'autres termes, le calvaire d'un programme audiovisuel émeut plus que la souffrance de simples humains. Les retombées de cet acte terroriste le montrent. Toucher à une télévision était une sacrée bonne idée. Au vu des réactions, difficile d'imaginer quelque chose de plus insupportable pour notre époque. Du coup, je me demande si cette action ne marque pas une étape dans l'histoire du terrorisme. Jusqu'ici, le but était de mener une action médiatisée. Maintenant, l'astuce consistera peut-être à s'en prendre à un média. Le nouveau programme des terroristes nous empêchait de suivre notre programme habituel.
France Inter, service public, Guillaume Erner.
Et puisque l'on parle des noms de rues, des noms de lieux, on se remet immédiatement dans l'oreille un vieux classique dont on se souvient tous.
C'est un grand jour. En effet, aujourd'hui, pour la première fois, je suis heureux de vous montrer mon cul à la télévision. Nous voici dans la mairie de Montcuq, dans la salle de délibération du conseil municipal, où monsieur le maire, accompagné de ses adjoints et de ses conseillers municipaux, a bien voulu nous recevoir. Et je m'aperçois que vous êtes bien chauffé, puisque voici le fameux poil de Montcuq.
Eh oui, le fameux poil de Montcuq. Et on va parler donc des noms de rues, des noms de villes également. On va parler de Montéton, on va parler de Clochemerle, de Cocumont, de Cornu, et puis de sujets plus sérieux également, puisque Robert Ménard, maire de Béziers, proche du Front National, a décidé de débaptiser la rue du 19 mars 62. Il y a eu également une polémique au sujet du nom d'un hôpital, l'hôpital Charles Richer à Villiers-le-Bel, qui aurait été débaptisé, dont on veut changer le nom, car Charles Richer était un médecin, certes de gauche, mais un médecin proche des théories eugénistes. Voilà donc pourquoi il est important de se soucier des noms de lieux et des noms de villes. Pour en parler, je suis en compagnie tout d'abord de Delphine Krust. Bonjour. Delphine Krust, vous êtes avocate en droit public et en droit des collectivités territoriales au barreau de Paris. En face de vous se trouve Gil Miaeli. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au magazine Causeur et historien. Antoine Lee, notre camarade, est des nôtres. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Et puis nous sommes au téléphone avec Jean-Claude Bouvier. Bonjour.
Bonjour.
Jean-Claude Bouvier, vous êtes professeur émérite de langue et culture doc et toponymiste. Pourriez-vous nous dire ce qu'est un toponymiste, Jean-Claude Bouvier ?
Un toponymiste, c'est quelqu'un qui étudie les noms de lieux, ou ce qu'on appelle les noms propres de lieux, ceux qui en principe ont une majuscule, c'est-à-dire ceux qui désignent des lieux. Voilà, ça fait partie de l'onomastique qui s'occupe d'une façon plus générale des noms propres. Mais le toponymiste a pour objectif d'étudier avant tout les noms de lieux, que ce soit des noms de montagnes, de rivières, d'espaces ruraux, ou que ce soit des noms de rues, comme il s'agit aujourd'hui.
Et c'est un sujet qui intéresse évidemment l'historien Gil Miaeli. Vous aussi, vous êtes historien. Pourquoi la toponymie urbaine est quelque chose qui intéresse de manière évidente les historiens ?
Parce que c'est devenu depuis deux ou trois siècles un champ d'activité politique de l'État, parce que les institutions se sont emparées de cette mine d'or qui permet de mettre en avant des personnes, des dates, des événements comme des batailles ou des accords de paix. Donc la voirie, que ce soit les rues, les routes, les avenues, les places et les ponts, mais aussi des équipements publics, parce que ça peut être une bibliothèque nommée après un président, un musée, des écoles. Donc on a énormément d'occasions d'honorer quelqu'un et donc de mettre en avant une ligne politique, de commémorer quelque chose qui va dans le sens d'une certaine politique, faire de symbolique, ce qui est très très... prendre de plus en plus de place dans l'action politique aujourd'hui.
Et pourtant, lorsqu'on se penche sur les noms de rues, comme vous l'avez fait, Jean-Claude Bouvier, en historien, on se rend compte, et on le lit dans votre livre, « Les noms des rues disent la ville » aux éditions Bonneton, on se rend compte que les noms de rues, les premiers noms de rues, étaient probablement issus d'éléments naturels ou culturels du paysage. Des noms de sources, et des noms de lieux liés au relief environnant.
Oui, alors pour ce qui concerne les villes, effectivement, au début, pendant très longtemps, jusqu'au début du XVIIe siècle à peu près, les noms de rues, les noms enfin de la voirie urbaine, disons, désignent avant tout des espaces précis. Bon, ça sera la rue de la Verrerie ou la rue de la Tannerie, ou parce qu'il y a des corporations de tanneurs dans cette rue, ou c'est la rue droite parce qu'elle va directement d'un endroit à un autre, la grande rue, etc. Ce sont des noms de rue qui décrivent l'usage de ces rues. Et puis cela va changer peu à peu, et en particulier à partir du XVIIe siècle, on veut de plus en plus commémorer des personnages ou des événements, et le pouvoir absolu, la monarchie absolue à partir du début du XVIIe siècle, et sur Louis XIV particulièrement, va utiliser de plus en plus ce système-là pour conforter le pouvoir en place.
Et à partir de là, évidemment, le fait de nommer une rue est un acte politique, tout simplement parce qu'il a des résonances, et des résonances, en quelque sorte, pour toujours. On se dit que lorsqu'on nomme une rue, c'est évidemment pour l'éternité.
Oui, à partir de là, effectivement, la dénomination des rues va être de plus en plus commémorative, et donc symbolique, et cela va avoir une très grande importance sous la Révolution, particulièrement. La Révolution fait un usage considérable des noms de rues à caractère symbolique pour asseoir ce mouvement, et cela va continuer par la suite. La Troisième République, en particulier, va être conforté assez fortement dans les années 70-75, au moment où elle se met en place et où elle est menacée assez sérieusement, elle va être confortée par les dénominations républicaines. Il y a un véritable panthéon républicain, comme je le dis dans mon livre, qui va se mettre en place peu à peu, et cela est une arme politique tout à fait importante et qui existe jusqu'à maintenant, bien qu'actuellement, depuis une trentaine d'années, on a tendance à dépolitiser plutôt la dénomination des rues.
Attendez, parce que ça pourrait peut-être aussi revenir, le retour de la politique dans les noms de rue. Guilmy Aeli, vous vouliez réagir.
Oui, c'est ce que vient d'être décrit. C'est un processus où on dépossède les gens, parce que quand on nomme une rue Chemin Vert, c'est une évidence pour les gens qui habitent. C'est la réponse qu'ils donnent à quelqu'un qui vient de l'extérieur. Et puis à un moment donné, des gens de l'extérieur viennent et disent aux gens qui habitent là-bas, non, c'est pas Chemin Vert, c'est François Mitterrand, c'est peut-être Jacques Chirac, c'est peut-être telle ou telle date, ou tel ou tel événement, ou tel ou tel dirigeant étranger qu'on souhaite honorer aujourd'hui. Donc c'est un changement, et ça fait partie d'une volonté, non seulement de contrôler les sujets du royaume, mais aussi de contrôler l'entendement des citoyens, de travailler sur les mémoires, et c'est pour ça que ça s'appelle de lieux de mémoire.
Allez, on attend vos réactions au 01 45 24 7000 et également sur Twitter, Service Public. Et puis, on écoute tout de suite Benjamin Biolay, La Superbe, un disque choisi par Thierry Dupin avec Olivier Bétard à la réalisation.
Service public, 01 45 24 7000 ou sur franceinter.fr.
On reste, Dieu merci, à la merci d'un conifère, d'un silence inédit, d'une seule partie de jambes en l'air. Le soleil est assis du mauvais côté de la mer. Quelle aventure, quelle aventure. On reste, Dieu merci, à la merci d'un abribus. Ne reste pas ici, on entend sonner l'Angélus. Le soleil est jauni, plus triste que le cirque russe. Quelle aventure, quelle aventure. On reste, Dieu merci, à la merci d'un engrenage, d'un verre de Campari, du bon vouloir, de l'équipage. Paris est si petit quand on le regagne à la nage. Quelle aventure, quelle aventure. On flaire, on flaire, on flaire, la flamme singulière. On gagne, espace. Le silence est aussi pesant qu'un porte-avions qui passe. Quelle aventure, quelle aventure. On reste, Dieu merci, et la merci d'un sacrifice, d'une mort à crédit, d'un préjugé et d'un préjudice. Le soleil s'enfuit comme un savon soudain qui glisse. Quelle aventure, quelle aventure. On flâne, on flaire, on flaire, la flamme singulière. On gagne, on perd la gagne. Le soleil est parti, la neige tombe sur les dalles. Quelle aventure, quelle aventure. On reste, Dieu merci, à la merci d'un lampadaire, d'une douleur endormie, d'un chasse-spleen, un soir d'hiver. La vieillesse ennemie reste la seule pierre angulaire. Quelle aventure, quelle aventure. On flâne, on flaire, on flaire, la flamme familière. On gagne, on perd la gagne, la super.
Service public sur France Inter, le nom des rues, le nom des lieux, des villes en France que l'on appelle la toponymie urbaine. On en parle ce matin, on en parle avec au téléphone Jean-Claude Bouvier qui est professeur émérite de langue et culture doc et toponymiste, qui a notamment publié Les noms des rues disent la ville aux éditions Bonneton, avec une avocate Delphine Krust, avocate en droit public, qui va nous expliquer comment on fait pour nommer une rue, si vous voulez par exemple une rue à votre nom, Chantal Le Montagnier, ou une rue Élodie Piel, comment faut-il s'y prendre pour l'obtenir. Et puis enfin avec Guil Mihaeli, qui est journaliste au magazine Causeur et également historien, avec beaucoup de réactions sur Twitter qui nous disent notamment qu'il y a des rues sans nom en France, que c'est un nom de rue, qu'il y a une rue sans sens à Étaples-sur-Mer dans le Pas-de-Calais, et puis un auditeur au standard, Francis, qui nous appelle de Bordeaux. Bonjour Francis.
Oui, bonjour Guillaume, bonjour à vos invités et merci d'exister. Merci, oui, je disais simplement que moi, le fait que Robert Ménard, dont je ne partage pas les idées, ait débaptisé la rue du 19 mars 62 ne me gêne absolument pas. Ce que je trouvais plutôt gênant, je suis gêné par le nom dont il l'a rebaptisé, ok, mais ce que je trouvais gênant, c'était qu'il y ait dans beaucoup de villes en France, des rues du 19 mars 1962. Donc ce sont les accords d'Évian, ça correspond à une défaite politique française, plus que militaire. alors qu'il n'y a pas en France de rue de Trafalgar, de rue de Waterloo, de rue d'Azincourt, de rue de Crécy. En Allemagne, il n'y a pas de rue du général de Gaulle. Au Royaume-Uni, il n'y a pas de rue Napoléon Bonaparte. Donc, j'estime, même si les communes qui avaient pris cette initiative à l'époque, même si c'était un mouvement contre la colonisation, si l'on veut, c'est quand même, moi, je trouvais quand même choquant de donner à un nom de rue, enfin, à une rue en France, un nom de défaite.
Alors, effectivement, il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire, Francis. Je précise que Robert Ménard, le maire de Béziers, a débaptisé la rue du 19 mars 1962, rue du commandant Élie Denoy de Saint-Mars. Alors, Élie Denoy de Saint-Mars, c'est un homme qui a été à la fois partisan de l'Algérie française, mais qui a été aussi ancien résistant. Donc, il y a là une ambiguïté, c'est aussi une icône de l'extrême droite. On va essayer de débattre de cela. Francis, vous vous dites que vous n'avez pas été choqué, bon, à chacun de se situer par rapport à cela. Mais tout d'abord, il y a effectivement une tradition en France, Jean-Claude Bouvier, de ne pas donner des noms de défaites aux rues, n'est-ce pas ?
Oui, ça c'est exact. Il n'y a pas de rue de Sedan, il n'y a pas de rue d'Agincourt, comme il le disait. Bon, mais ça paraît assez évident que la mémoire collective a envie de célébrer plutôt les victoires que les défaites.
Alors le fait de nommer une rue 19 mars 1962, était-ce faire une entorse à cette règle ? Était-ce considérer au contraire que l'armistice, la paix, était quelque chose de supérieur à tout le reste, Jean-Claude Bouvier ?
Oui, écoutez, bon, on peut interpréter les choses comme l'on veut. Enfin, moi, je considère que le 19 mars 62, ce n'est pas forcément une défaite de la France. C'est le résultat d'un compromis, d'une négociation entre deux pays en guerre. Et ma foi, c'est quelque chose qui, en principe, peut être bénéfique pour les deux parties. Je ne crois pas que l'on puisse reprocher à cela. Ce qui, en revanche, est important, c'est de voir que le 19 mars 1962 avait déjà été supprimé par une municipalité qui était Front National, qui était celle de Maigret, exactement, à Vitrolles, qui avait, en 1997, remplacé le nom d'Estana du 19 mars 62 par le nom du Bachaga Boualem, qui était un Algérien que l'on considérait comme un grand ami de la France et que l'on a voulu honorer ainsi. Alors ça fait partie de ce que j'appelle l'épuration toponymique. Il y a des exemples nombreux dans toute l'histoire.
Donnez-nous d'autres exemples d'épuration toponymique. En tout cas, on voit bien qu'il y a une visée politique très claire chez Robert Ménard, qui consiste donc à prendre un symbole qui est un symbole de la décolonisation et à s'en débarrasser. Qu'y a-t-il comme autre exemple, au-delà du cas particulier de la politique des municipalités du Front National ?
Si l'on remonte un peu dans l'histoire, il y a évidemment la période de Vichy. Vichy a été une grande époque d'épuration toponymique, puisque le nom de la République a été supprimé et remplacé très souvent dans beaucoup de villes par celui de Pétain. Et de même, les noms des grands républicains, des grands hommes politiques républicains, a disparu dans beaucoup de villes à cette époque-là. Donc là, c'est une véritable épuration qui a eu lieu.
La question que ça pose, pardonnez-moi, je vous ai coupé Jean-Claude Bouvier, parce que on se demande si tout ceci est bien légal, et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à Delphine Krust de venir. Delphine Krust, vous qui êtes avocate, un maire a-t-il absolument tous les droits en matière de toponymie urbaine ?
Non, d'abord un maire n'a jamais tous les droits. De principe, il faut quand même le rappeler. A fortiori, quand il s'agit de la vie quotidienne des habitants, bien entendu. Il n'a pas tous les droits, néanmoins, d'abord, ce n'est pas le maire, c'est le conseil municipal, donc c'est l'organe délibérant de la commune qui est compétente. Et cet organe est compétent pour changer ou donner les noms, d'abord donner un nom ou changer le nom des rues. Ce qui affecte quand même la vie des habitants et ce qui a du sens, comme on vient de le voir, quoi qu'il en soit, un sens mémoriel ou un sens politique aussi de propagande, pour être simple. Ce choix, il obéit quand même à des règles qui sont celles de l'administration en général, à savoir, il faut qu'il y ait un intérêt local, d'abord à donner un nom de rue, ensuite à choisir ce nom. Et cet intérêt local, il faut aussi qu'il soit en adéquation avec les principes généraux de l'administration, à savoir que celui-ci soit neutre, une neutralité politique, religieuse. Donc classiquement, on rencontre ce phénomène. Alors, bien entendu, on constate quand même que les noms de rue sont loin d'être neutres. On a beaucoup d'hommes politiques qui sont encensés, beaucoup de personnalités religieuses. Mais souvent, ça donne quand même lieu à des confrontations. Et une confrontation qui peut aller jusqu'à la saisine des juridictions et donc une censure éventuelle de ce choix.
Justement, si je m'oppose par exemple au fait d'habiter dans une rue qui va être débaptisée rue Claude François, ai-je le droit de le faire en tant qu'administré ? Est-ce quelque chose de légitime que d'aller contester devant les tribunaux le nom que l'on donne à une rue ?
Bien sûr. Bien sûr. La voie de la justice est l'une des plus sérieuses, et c'est quand même un fondement. Et si vous êtes vous-même intéressé, soit en tant que riverain, soit en tant qu'habitant, soit en tant qu'ayant droit, par exemple, de ce monsieur Claude François, puisqu'il y en reste, vous pouvez contester la dénomination de cette rue.
Nous avons une autre auditrice au standard, nous avons Francine. Bonjour Francine.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons Francine.
Moi, c'était juste pour témoigner de l'histoire de mon village, parce que je ne connais pas l'origine de ce nom, mais ce village s'appelle Froidcu. Alors, vraiment, comme ça s'écrirait, hein. F-R-O-I-D-C-U-L.
Et alors, comment ça se passe à Froidcu ?
Ah ben, ça se passe bien. Moi, j'y habite plus maintenant, mais enfin, j'y vais très régulièrement, mais je n'y habite plus. Donc, ce village en Lorraine s'appelle comme ça depuis très très longtemps, et il y a peut-être une dizaine d'années, toute une polémique qui a commencé à bouillir, je dirais, parce qu'il était question de débaptiser le nom du village, plus ou moins parce que peut-être qu'il y a des résidences qui allaient se construire et que du coup le nom ne serait pas très bien, évidemment, hein, ça ferait pas chic.
Et alors qu'est-ce qui s'est passé finalement ? Est-ce que vous pensez que les partisans, au contraire les détracteurs de Froidcu vont l'emporter ?
Ah mais ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire que le village s'appelle toujours Froidcu. Voilà.
Eh bien, nous serons au téléphone justement tout de suite après le disque avec Patrick Lassub, qui est maire de Saint-Lys-Minguet-Sébès et qui est président fondateur du groupement national des communes au nom burlesque. On va vous parler tout de suite de Bèze, Bosc-Bordel, Bourgougnane, Bouzillé et également Camembert, tout de suite après Lisa Egdahl, My Heart Belongs to Daddy.
While tearing up a game of golf, I may make a play for the caddy. But when I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to daddy. If I invite a boy some night to dine on my fine Finn and Hattie, I just adore, he's asking for more, but my heart belongs to daddy. My heart belongs to daddy, so I simply couldn't be paid. My heart belongs to daddy, da, 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 da. So I want to warn you, laddie, though I know you're perfectly swell, that my heart belongs to daddy, 'cause my daddy, he treats it so well. Thank you. that my heart belongs to daddy, 'cause my daddy he treats it so well.
Service public sur France Inter, les noms de rues, les noms des villes. Et je vous l'avais promis, je vous avais promis un entretien avec le président fondateur du groupement national des communes au nom burlesque, Patrick Lasseux. Bonjour.
Bonjour.
Vous savez tout sur Clochemerle, hein, parce que Clochemerle, contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas seulement une idée, c'est aussi une commune en Rhône-Alpes, alias Vaud en Beaujolais. C'est facile d'habiter Clochemerle?
Oui, c'est tout à fait facile et même c'est un honneur d'habiter à Clochemerle puisque évidemment c'est le pseudonyme du nom du village qui s'appelle Vaud en Beaujolais et Clochemerle doit son succès à un écrivain, Gabriel Chevalier, qui en a fait un roman mondialement connu et qui aujourd'hui, Clochemerle est tombé même dans le langage courant.
Et vous auriez également la possibilité, si vous rendiez souvent à Clochemerle, d'avoir, par exemple, une aventure avec une clochemerline, car c'est ainsi que l'on nomme les habitantes de Clochemerle, n'est-ce pas, monsieur le maire?
Oui, je ne suis pas maire de Clochemerle.
Ah non, mais... vous êtes maire de Saint-Lys-Minguesseb, qui est compliqué à prononcer, surtout quand on a une voix dans l'état de la mienne.
Minjosebo, c'est de l'Occitan, ça se situe, c'est un lieu dit de la commune de Saint-Lys, qui se situe en pays toulousain, et qui veut dire Minjosebo, c'est le lieu où habitent les mangeurs d'oignons.
D'où vous est venue, monsieur le maire, cette idée de regrouper les communes qui ont des noms rigolos?
Tout simplement, je me suis aperçu au-delà de la convivialité que ça pouvait dégager ou du rire que ça pouvait déclencher, je me suis aperçu que toutes les communes qui portent un nom pittoresque ou burlesque ou chantant sont des communes à faible population, donc de petites communes. Et en regardant de plus près, je me suis aperçu que ces petites communes sont dans des territoires, dans des terroirs, et que bien souvent, ces communes développent des richesses de terroir, des produits de terroir, et c'est ce qui fait aussi la richesse de notre pays, la France. Et effectivement, un slogan m'est apparu essentiel, c'était de dire « profitons de notre nom de commune pour se faire un nom ».
Il y a effectivement cette possibilité-là, la possibilité d'aller dans un lieu parce qu'il a un nom rigolo. Vous pensez que ça a fait le succès de Mon Cul, par exemple, le nom de lieu et la publicité qui lui a été largement donnée par Pierre Desproges et d'autres?
Je pense que nous sommes inspirés de l'exemple de Mon Cul, mais nous avons pris le contre-pied. C'est-à-dire
le contre-pied de Mon Cul.
Le contre-pied de Mon Cul.
C'est vous qui l'avez dit, monsieur le maire.
Voilà, au lieu de subir les attaques ou les grivoiseries dont ont fait l'objet la municipalité, les habitants de Mon Cul, non, les maires des communes qui sont adhérentes à notre groupement sont capables de faire de l'autodérision et de la maîtriser. C'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui tournent en dérision, quelque part, le nom de leur commune, et en font un atout de publicité, un atout de propagande, voilà, donc c'est effectivement, c'est tourner dans le positif ce que malheureusement Mon Cul a subi.
Votre cul a subi beaucoup de choses, monsieur le maire. Mais bon, on va essayer de dépasser quand même ces questions-là et on va essayer d'aller vers du tourisme comico-toponymique grâce à Antoine Lee qui a suivi un voyageur de la chose.
Ouais, il s'appelle Clément Leroy. Alors ce jeune homme de 26 ans est psychologue, quelqu'un de très sérieux. Sa particularité, c'est qu'il adore les défis insolites. C'est d'ailleurs comme ça qu'il est devenu le champion du monde en titre de vélo sur place. Et en décembre dernier, il a entamé un autre défi, celui de faire le tour de France des villes aux noms insolites. Alors ce périple, il le fait au volant de sa voiture électrique, fournie par l'un de ses sponsors. Alors je l'ai retrouvé pour sa dernière étape il y a quelques jours. C'était en région parisienne, où ça? À Bourg-la-Reine, bien sûr. C'était la veille de son départ pour Melbourne, en Australie. Il y est allé pour défendre son titre mondial de vélo sur place.
Alors aujourd'hui, nous sommes à Bourg-la-Reine. c'est aujourd'hui la fin de mon Tour de France parce que je décolle demain pour l'Australie pour aller au championnat du monde de coursier à vélo.
Vous avez traversé quelle commune comme ça?
Donc j'ai traversé Saint-Amand-sur-Fion, j'ai passé le réveillon de Noël à Froidcu, j'ai dormi à Bibiche, j'ai également dormi à Mittelschaffelsheim, le nom le plus long de France sans tirer, j'ai dormi à Verges, à Châtes, j'ai dormi à Montnidé, à Montcu bien évidemment, à Laconne, à chez Grosdent, j'ai dormi à I, la ville au nom le plus court de France, une seule lettre, un Y, j'ai également fait Lorgie, Coin, Bézancourt.
Pourquoi vous avez décidé de faire ce Tour de France des villes et villages au nom insolite?
Alors en fait, en psychologie, on apprend que c'est important d'avoir une raison de faire les choses. Et il se trouve que si je frappais dans des maisons au hasard, dans des communes au hasard, il y a peu de chances pour que les personnes m'ouvrent la porte en se disant bah, « allez frapper chez mon voisin, il vous ouvrira certainement la porte ». Alors qu'en arrivant dans une commune au nom insolite, tout de suite les personnes se sentent valorisées parce que je suis venu chez elles et pas chez leurs voisins parce qu'elles habitent une commune au nom insolite. Et là, elles se disent « allez, c'est génial, on va être joueur, on lui ouvre la porte, on va bien rigoler ». Je suis un peu ric-rac en énergie, donc je vais aller essayer de me recharger ma voiture quelques heures chez l'habitant à Bourg-la-Reine.
Bon, on va voir s'ils vont bien vous accueillir.
Donc là, il y a de la lumière en face, on va pouvoir aller sonner et expliquer le problème que je rencontre. Allez, c'est parti.
Là, vous sonnez, là. Il y a personne, là, visiblement.
Voilà, oui, et pas de mouvement. Je pense qu'ils ont laissé la lumière pour faire peur aux voleurs. Du coup, en avant pour la deuxième maison.
Vous arrivez des mésaventures des fois pendant votre Tour de France là?
Ça m'est arrivé une fois, j'étais à Bézancourt et je suis arrivé en expliquant que j'avais fait mon cul, Châtes et Verges et que forcément Bézancourt était dans la lignée. Il m'a dit « Dehors monsieur, ça m'intéresse pas !» J'ai pas eu le temps de prononcer ma première phrase et ça me fait marrer mais c'est pas forcément agréable à vivre en live.
Et comment vous avez fait alors?
J'ai réussi à trouver un monsieur Roland de 84 ans qui a accepté de m'ouvrir sa porte pour la soirée. Oui, bonsoir madame. Excusez-moi, je m'appelle Clément Leroy, je fais un tour de France des communes aux noms insolites en voiture électrique et je voulais savoir si je pouvais recharger ma voiture pendant une heure chez vous.
D'accord, je comprends. Sauf que moi je suis que la nounou. Donc pas
d'accord,
chez moi,
vous n'êtes pas chez vous. Non. Ok, bonne soirée madame.
Merci à vous aussi.
Je vous en prie. Bonsoir madame. Vous n'avez pas de prise.
Un nouvel échec. Bon, en tout cas, vous gardez le sourire.
Bien sûr que je garde le sourire, parce que sans ça, je suis sûr que j'y arriverai jamais. On va tenter une sixième maison.
Là, il y a une école. On va peut-être essayer, non?
On va aller regarder ça. Bonsoir, monsieur.
Oui.
Je fais un tour de France en voiture électrique des communes aux noms insolites. Et j'aurais besoin de recharger ma voiture pendant un quart d'heure, 20 minutes.
Mais la faire recharger, c'est-à-dire?
En fait, j'ai une rallonge de 25 mètres, c'est sur une prise de 120.
C'est vrai, hein. Je suis journaliste à France Inter, je fais un reportage sur monsieur.
Non mais je sais pas, je suis en train d'interroger mes étudiants là, c'est surprenant. Elle est où cette voiture?
Elle est juste derrière à gauche à 100 mètres, juste là. Ça vous dérangerait?
Bah fais vite alors. Hein.
Ok, je me dépêche. A tout de suite.
Ouf, Clément là, heureusement que vous avez trouvé là.
Ça y est, je suis sauvé, merci aux habitants de Bourg-la-Reine.
Alors Guillaume, je vous propose un petit quiz.
Aïe.
Connaissez-vous le gentilé, c'est-à-dire le nom des habitants de Bourg-la-Reine?
Non.
Alors ce sont les Réginaburgiens et ceux de Montcu, vous savez comment ils s'appellent? Ce sont les Montcuquois et ceux de I, la ville avec le nom le plus court, avec un Y, dans la Somme, ce sont les Ypsiloniens.
Et les habitants de Cussangy?
Ah je ne sais pas.
Les Cussangeois. Nous avons également Joseph qui nous dit dans un autre registre que les nazis pendant la guerre avaient rebaptisé la fameuse rue du Sauvage à Mulhouse en rue Adolf Hitler. Et là aussi, cela nous rappelle qu'il peut y avoir toute une série d'opérations politiques relevant du nom des rues, comme veut peut-être nous le rappeler également Laurence. Bonjour Laurence.
Bonjour.
Nous vous écoutons Laurence.
Ben voilà, j'ai eu l'information par votre radio du 1er avril, et ce n'était pas un poisson d'avril, vous l'avez bien précisé, qu'à Corbeil-Essonne, le conseil municipal avait pris la décision qui est passée de débaptiser l'avenue Jean Jaurès pour l'appeler l'avenue Serge Dassault. Alors, on ne touche pas à Jean Jaurès.
On ne touche pas à Jean Jaurès, on ne touche pas à Maurice Thorez, on ne touche pas à Georges Marchais. Il y a toute une série donc, d'affaires comme cela en France en ce moment, mais elles arrivent régulièrement. Delphine Krust, lorsqu'on essaye de réfléchir à ces questions-là, un administré a-t-il la possibilité de s'opposer à ce type de changement de nom de lieu ou nom de place?
Oui, bien sûr. Pour cela, il faut qu'il conteste la décision, donc, qui est celle de l'Assemblée délibérante du Conseil municipal, de changer le nom de la rue, en saisissant le tribunal administratif. Alors, il a deux voies, soit saisir d'abord le préfet, qui exerce un contrôle de légalité, mais qui, sauf son initiative en général, laisse un peu couler ce genre de recours, mais surtout le tribunal administratif, qui, lui, est le juge de la légalité des décisions du conseil municipal. Et là, il peut invoquer une atteinte, soit à l'histoire, soit aux droits des personnes, soit même à ses droits, mais là, ça passe rarement, parce que ça entraîne quand même beaucoup de formalités que de changer son nom de rue. Et puis, je vous dis, l'atteinte aux droits à l'histoire, l'atteinte à la réputation et l'atteinte à l'ordre public. Tout ça sont des motifs qui sont retenus par le juge.
Guy de Miaëli.
Oui, puisqu'on a parlé de Jean Jaurès, je rappelle que dans le mois d'août 1914, la nomenclature urbaine parisienne a été épurée de noms allemands. Donc l'avenue d'Allemagne a été rébaptisée Jean Jaurès parce qu'il venait d'être assassiné à ce moment-là, mais aussi la rue de Berlin et d'autres rues. Et donc il y a une opération, en quelques semaines, l'édition a été faite. Et ce qui est intéressant, c'est que ces noms-là existaient bien entendu avant, et que ce qui dérangeait les Français pendant la guerre des 14 les a moins dérangés après la guerre de 1870. Donc ce n'est pas seulement en animosité vis-à-vis de l'Allemagne, c'est aussi en état d'esprit, qu'est-ce qu'on peut tolérer, quel rapport on a avec le lieu de mémoire. Et une autre petite anecdote dans le même genre, c'est qu'à Paris, il y avait une rue Adam Mickiewicz, d'après le poète national polonais, et probablement dans le cadre de rapprochement stratégique avec la Russie, dans les années 1890, ce nom a changé de nom, ces rues a changé de nom, et ça s'appelle désormais, depuis 1892, la rue Léopold-Robert dans le 14e.
Alors il y a énormément de commentaires à ce sujet, on nous parle également de l'épuration des noms après la Révolution, on voit que c'est véritablement une activité perpétuelle, Jean-Claude Bouvier, vous qui êtes historien toponymique.
Alors, non, ce qui est intéressant, pour faire suite à ce qui vient d'être dit, c'est que dans un certain nombre de cas, il y a une opération à double détente. C'est-à-dire, au début, on fait l'éloge d'une personnalité, et ensuite, on la démolit quelques années plus tard. Le bel exemple est celui de Thiers, d'Adolphe Thiers, qui a été le fondateur de la Troisième République, et le premier président de la Troisième République, et qui a eu beaucoup de rues à son nom à cette époque. Et puis, depuis, dans les années, à partir des années 1980 à peu près, on a débaptisé beaucoup de noms de rues Thiers ou de boulevards Thiers, en se rappelant évidemment que Thiers n'était pas simplement le premier président de la Troisième République, mais qu'il avait écrasé la Commune. Et donc on a enlevé ce nom de Thiers, on l'a remplacé par tout un de noms. L'un des plus étonnants, c'est à Amiens, où le boulevard Thiers a été rebaptisé boulevard des Fédérés, en souvenir évidemment du mur des Fédérés contre lequel les derniers communards avaient été tués.
Delphine là, Crust.
C'est un exemple d'ambivalence toponymique. Et il y en a d'autres comme cela.
Delphine Crust, vous voulez réagir?
Oui, surtout à la réaction de l'auditrice. En fait, c'est un classique du genre. Après chaque municipal et donc changement de municipalité, vous vous retrouvez avec des maires qui ont l'envie soit d'éradiquer le passé, soit d'éradiquer le passé et d'asseoir leur autorité de telle sorte qu'ils changent. Ça passe souvent par le changement de nom, soit des bâtiments municipaux, je crois qu'on va en parler, soit évidemment des noms de rue. Et donc, tout particulièrement, là, on a eu l'exemple à Villejuif, mais il s'est souvent répété, lorsque vous avez un basculement d'une ville communiste qui elle-même avait tendance à glorifier ses propres personnalités, et à une ville plus à droite, ça s'est produit il y a déjà 20 ans, depuis 78. Donc c'est un classique du genre, malheureusement, et on le connaît bien.
Et il n'y a pas effectivement que les noms de rues, les noms de villes, il y a aussi les noms d'édifices publics. Il y a récemment eu une polémique à Villiers-le-Bel, où l'hôpital s'appelle Charles Richet, un nom qui pose problème. Pourquoi ce nom pose-t-il problème, Guy de Miaëli?
Alors d'abord, qui est M. Charles Richet? Donc c'est un éminent médecin et scientifique, même prix Nobel de médecine 1913. C'était aussi un intellectuel engagé, Dreyfusard. mais également, et c'est là où se trouve le problème, quelqu'un qui avait des écrits extrêmement déplaisants vis-à-vis des Noirs. C'était un homme qui avait des convictions racistes, une vision racialiste de Jean Roumain. Et donc, il y avait une pétition dans la commune, et pas forcément la commune, parce que c'est pas l'autorité, c'est pas d'incompétence de la commune, parce qu'il s'agit d'un hôpital qui dépend, à mon avis, des hôpitaux de l'assistance publique. Donc la décision a été prise finalement par Martin Hirsch.
Quelle décision ?
D'échanger le nom de l'hôpital. Voilà.
Et il y a effectivement beaucoup de polémiques de ce genre. Il y a cela également avec des facultés nommées Alexis Carrel à Lyon, je crois, qui est une faculté auquel on a donné le nom d'un eugéniste. Un problème finalement assez proche, puisque au 19e et au début du 20e, beaucoup de scientifiques de renom, beaucoup de scientifiques de renom de gauche d'ailleurs, il faut le dire, étaient eugénistes et ont laissé des textes qui aujourd'hui...
La phrénologie, la crinologie primitive, il y avait
autrement
beaucoup...
Autrement dit, la science des crânes, ou oui. Une pseudo-science, évidemment, qui consistait
L'Ambroso,
à déduire un certain nombre de caractéristiques mentales de la forme des crânes. Bref, toutes ces disciplines étaient à l'époque considérées comme des disciplines scientifiques. Aujourd'hui, non seulement elles sont considérées comme étant des disciplines qui n'ont rien à voir avec de la science, mais en plus, elles sont considérées comme vulgairement racistes. Jean-Claude Bouvier, par rapport à cela, faut-il considérer qu'on a un travail encore d'épuration toponymique à faire ? C'est une question difficile que je vous pose.
Qu'on est. Enfin, la tendance actuelle, quand même, et je pense qu'elle est heureuse, c'est de conserver, de tout changer les noms des rues, alors qu'à certaines époques, même pour des raisons indépendantes de la politique, on les a changés souvent. Actuellement, on a tendance à considérer que les noms des rues font partie du patrimoine culturel d'une ville, et donc on a tendance à le conserver. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de noms à changer. Bon, il y a encore des Alexis Carrel qui traînent par-ci par-là, mais ils ont été remplacés la plupart du temps en raison de ce que vous venez de dire, alors qu'Alexis Carrel était un grand médecin. Il a eu le prix Nobel de médecine lui aussi en 1912, mais il a eu le malheur d'écrire en 1935 un livre L'homme s'est inconnu, dans lequel il défendait non seulement les thèses eugénistes, mais enfin il faisait des propositions d'établissement euthanasique pour exterminer pour les gens qui étaient
il était grossièrement eugéniste. Pardon, je vous écoutais, Jean-Claude Bouvier. Alors ensuite, c'est un vrai problème philosophique, puisque on sait, pour prendre certains exemples, que Tocqueville, qui est un immense penseur, a eu aussi des textes impossibles à relire au premier degré aujourd'hui sur l'Algérie. On sait que Voltaire a eu des propos d'une grande violence à l'encontre des Juifs. Bref, il y a un certain nombre de questions qui peuvent se poser pour les gens du passé. Et on va écouter une auditrice, Catherine, qui nous appelle de Limoges.
Oui, bonjour.
Bonjour Catherine.
Bonjour. Je vous appelle de Limoges parce que moi, j'habite rue du 19 mars 1962 à Limoges. Et je pense qu'on n'a jamais pensé suffisamment aux problèmes pratiques que créait le changement de nom des rues. Nous habitions une rue qui avait un vieux nom bien limougeot, que tout le monde connaissait. Du jour au lendemain, plus personne ne savait où on habitait, premièrement. Deuxièmement, tous les habitants de la rue, qui étaient des personnes âgées, parce qu'il s'agit d'une rue avec beaucoup de petits pavillons anciens, ont dû changer tous leurs papiers. Et ça, on ne pense pas à ce que ça représente. Il y a des gens qui ont tous les papiers d'une vie à l'adresse à laquelle ils habitent. Et du jour au lendemain, il va falloir changer tous ces papiers-là. Donc, deuxième problème. Et le troisième, qui n'est pas un des moindres, c'est quand vous voyagez à l'étranger et que l'on vous fait remplir des papiers. Et donc, vous remplissez des papiers où vous mettez votre date de naissance, comme on vous la demande souvent, et ensuite, on vous demande votre adresse. Et vous remettez une date qui pourrait être une date de naissance. Et je peux vous assurer que cela m'a posé de gros problèmes, parce que dans certains pays où on ne parle pas la même langue et on a du mal à se comprendre, J'avais l'air complètement illuminée d'aller mettre une date de naissance comme adresse. À l'adresse.
Alors que vous n'êtes pas du tout né le 19 mars 62, vous êtes né bien après Catherine. On pose la question, Maître Krust, effectivement, ça pose des problèmes pratiques lorsqu'on habite dans une rue dont le nom n'existe plus, Maître Krust.
Oui, bien sûr. C'est peut-être aussi l'une des raisons pour lesquelles on s'aperçoit qu'il y a de moins en moins de changements de nom de rue. C'est que l'autorité administrative, le maire, les élus conçoivent bien qu'ils vont un peu bouleverser la vie des habitants qui ne sont pas toujours très chauds pour s'y prêter. Et du coup, ils sont un peu plus timorés quand même pour pratiquer ces changements. Donc c'est souvent un phénomène fort qui les pousse à changer plus qu'une simple envie. Parce qu'il faut bien voir que le changement de nom de rue, d'abord ça entraîne des frais pour la commune aussi, puisqu'elle doit changer les plaques. Elle doit changer les panneaux directionnels, elle doit changer les plans, elle doit avoir un certain nombre de formalités à remplir, telles que signaler tout ça au cadastre, etc. Donc même pour elle, c'est compliqué et ça entraîne des coûts. Mais pour l'habitant aussi, bien sûr, puisqu'il y a tous ces changements d'adresse. Alors souvent, on s'aperçoit que les communes aujourd'hui facilitent quand elles imposent un changement de rue. D'abord, elles essayent de le faire un peu dans la concertation. Mais ensuite, quand elles y procèdent, elles facilitent la vie des habitants, soit en leur donnant une somme d'argent, une sorte de subvention au changement pour effectuer les formalités nécessaires, soit par exemple en mettant à leur disposition les cartes de changement d'adresse postaux, etc., enfin des changements postaux pour leur permettre de manière très pratique de réaliser ces formalités.
Et puis Chantal nous dit que Moncuq ne se prononce pas Moncuq, mais Moncuq, et les habitants sont bien les Moncuquois. Chantal n'est pas contente de notre séquence d'humour grivois ou d'humour gaulois sur Moncuq. Donc nous avons un autre auditeur au standard, Stéphane. Bonjour Stéphane.
Oui, à des chats, à toutes. Je vous appelle j'habite dans le Midi-Pyrénées, et à propos des noms de villes qui changent, mais des noms des villes qui sont tout simplement transcrits dans une langue régionale. Uh-huh. Et on a eu des problèmes, notamment, qui a fait date avec le village ou la ville de Villanueva de Magalón, qui a voulu changer son nom et qui a voulu mettre son nom en occitan et qui a eu des graves problèmes. Mm-hmm. Et juste quand on va en Corse et au Pays Basque, on s'aperçoit que là-bas, tous les noms de villages et tous les noms de villes sont écrits systématiquement en Corse sous le nom français ou même pas du tout en français et qu'en Corse et parfois aussi au Pays Basque, et surtout de la même dimension que le nom en français, alors que d'après la loi, ce qu'on nous reproche ici quand on veut le faire en Occitanie, c'est que c'est strictement interdit.
Mais alors qu'est-ce que vous voulez dire, Stéphane ?
Pourquoi les Corses et les Basques ont le droit de le faire et pas ailleurs dans les autres régions françaises ?
Alors ça, c'est le deux poids, deux mesures. Merci Stéphane pour cette remarque. Jean-Claude Bouvier, vous qui êtes historien toponymique, qu'en pensez-vous ?
Oui, non, moi je pense que c'est une très bonne chose de donner les noms locaux, enfin les noms dans les langues dites régionales, en occitan par exemple, en breton, en corse, etc., à côté du nom français. Mais actuellement, beaucoup de communes, quand même, ont la double appellation sur les panneaux qui annonce la ville. Il y a, bon, dans beaucoup de villages, que ce soit dans le sud-est ou le sud-ouest, enfin pour ce qui est des pays occitans, il y a beaucoup de communes qui ont le double panneau occitan et français. Et c'est encore plus vrai pour les noms des rues où l'on a systématisé dans un certain nombre de communes, de villes, en particulier des villages à Montpellier, à Toulouse, etc., la double appellation, enfin, sur les en carte des noms des rues, sur les plaques et des noms des rues.
Votre réaction, Guy Miaeli?
Je veux dire que, surtout pour le nom de rues, mais aussi des écoles, etc., parfois il y a une persistance des anciens noms. On change, mais pour les habitants, rien n'a changé. À Saint-Cloud, par exemple, le lycée qui s'appelle aujourd'hui Alexandre Dumas s'appelait avant Florent Schmitt, et pour beaucoup des habitants de Saint-Cloud, c'est toujours Schmitt. Et ce qui m'amène à une autre remarque, c'est sur l'efficacité de tout cela. Je me pose souvent la question, est-ce que les enfants de Boulogne-Billancourt connaissent mieux Marcel Samba ? parce qu'il y a un métro Marcel Samba, parce qu'il y a en place Marcel Samba. Est-ce que les gens en France connaissent mieux Jean Jaurès, parce qu'il y a tant de rues Jean Jaurès? Et je pense que la réponse est globalement négative et que j'ai même parfois les sentiments que c'est même l'inverse. Qu'on demande aujourd'hui à un enfant qui est Marcel Samba, il va dire c'est un métro, c'est une station de métro. Donc que ça se détache, ça devient un mot qui n'a pas de sens, comme le mot valise. On ne se pose pas la question pourquoi cet objet s'appelle valise. On ne se demande pas pourquoi la rue s'appelle Jean Jaurès. C'est un sort de bruit phonétique qui ne veut rien dire.
Une dernière auditrice, Dominique, qui nous appelle d'Orléans. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour Dominique.
Bonjour.
Nous vous écoutons. Nous écoutons votre question.
Oui, bonjour. Je souhaitais intervenir pour parler également des noms de rues dans les villes, les grandes villes, et en particulier à Orléans, puisque je la connais bien, je suis une élue municipale. Il n'y a à Orléans que 22 noms de rues de femmes sur 845. Et sur ces 845, il y a 434 noms de rues qui portent un patronyme masculin. J'ai fait le détail de tout ça en conseil municipal en septembre dernier, pour dire que bon, il serait peut-être temps de revenir à d'autres pratiques, et qu'en particulier, tous nos grands hommes ne sont pas nés tout seuls, et que, à moins que, effectivement, avec la génétique, on ne sait jamais, les abeilles, les choux, les roses, ils s'étaient reproduits peut-être tout seuls.
Il faut être prudent.
Oui, voilà, il faut être prudent, mais bon, c'était une petite pointe humoristique pour dire que quand même, il serait peut-être temps, puisqu'on parle de parité, mais également de représentation des femmes dans la société, en politique et dans les entreprises, eh bien qu'elles ne soient pas oubliées, que nous avons aussi de grands personnages féminins qui ont lutté dans notre pays, et que malheureusement, une fois que les luttes étaient obtenues, eh bien on les oubliait. Et il serait peut-être temps qu'on en revienne à d'autres pratiques, et que notre ville d'Orléans porte des noms de rues de femmes, et de femmes célèbres. Il y en a un certain nombre. Je crois qu'on peut faire des propositions.
Il y aurait effectivement la possibilité de rétablir la parité. Maître Crust, peut-on faire quelque chose là-dessus très rapidement ?
Oui, bien sûr, mais il y aurait énormément à faire compte tenu du retard pris, parce qu'effectivement, les femmes ne sont pas du tout rentrées dans les noms de rue. Ça, il y a des études là-dessus qui le démontrent avec beaucoup de force.
Et puis, il y a aussi des auditeurs qui témoignent parce qu'ils ne sont pas contents du lieu que l'on a nommé du nom d'un grand homme. Par exemple, le nom de François Mauriac nous dit « Simone a été donnée à une rue qui est presque une impasse à Bordeaux. Cet homme-là méritait mieux que cette rue sale et minuscule du quartier Saint-Michel. » Là, je ne suis pas allé vérifier dans le quartier Saint-Michel qui, dans mes souvenirs, était un très joli quartier de Bordeaux. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle l'ouvrage de Jean-Claude Bouvier « Les noms de rue disent la ville aux éditions Bonneton, et Village de France au nom burlesque aux éditions Ouest-France. Merci à tous d'avoir été avec nous. Pas de bande originale, pas de Nagui aujourd'hui pour cause de grève. On se retrouve pour Service Public lundi.